Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot. Spéciale finale de la Ligue des Champions.
Karine Galli.
Bonsoir à tous, vous êtes sur RMC jusqu'au bout de la nuit, on est ensemble pour vibrer, pour pleurer, pour rêver avec cette deuxième Ligue des Champions remportée par le PSG. Oui, le PSG l'a fait, le back-to-back, ils sont allés jusqu'au bout de leur force face à Arsenal à l'issue de la séance de tir au but. C'est donc le PSG qui lève pour la deuxième fois cette magnifique coupe aux grandes oreilles. Ils sont là en pleine forme, j'espère, jusqu'au bout de la nuit. Ils ont vibré également, vous l'avez entendu il y a quelques instants, Walid Alcherchou est toujours avec nous aux côtés d'Alton Mokolo et de Maxime Chano. Ça va les gars?
Bonsoir Karine, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Félicitations au PSG. Deuxième Ligue des Champions, donc voilà, ça mérite d'être cité. Et nous, on arrive en prolongation.
On est là pour ça, Elton.
Oui, c'est une soirée exceptionnelle.
Ouais, ça mérite d'être cité. Je pense que c'est la qualité.
C'était une formule protocolaire.
Ah, d'accord, okay. On enlève les formules alors.
Okay. Messieurs, je vous propose de nous remettre justement dans le bain de cette finale absolument dingue. Vous l'avez vécu sur RMC. Écoutez.
Declan Rice qui va arriver dans la surface de réparation du PSG. Rice face à sa poudre, la frappe. But! Aïe 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 aïe. L'ouverture du score d'Arsenal, c'est Kai Havertz.
Avec Penalty. Penalty.
Dembélé qui frappe. C'est au fond. Le contre-pied est impeccable. Et oui, c'est un contre-pied parfait en finale de Ligue des Champions. Raya est parti sur sa gauche. Dembélé l'a mis de l'autre côté. Et Ousmane Dembélé, ballon d'or, permet au PSG de revenir à un partout. Gonzalo Ramos. Et c'est au fond. C'est au fond. La séance est bien lancée. Il peut aller haranguer la foule. Le PSG est devant. Si Safonov l'arrête, c'est gagné. Ou si Gabriel tire à côté, c'est gagné. La course d'élan, c'est parti pour Gabriel. Oh, consécutive, le PSG l'a fait, le PSG a gagné la Ligue des Champions, le ballon qui a fini dans le ciel de Budapest, et le PSG a réussi son back-to-back. Le PSG dans la légende désormais a conservé son titre. Quinios qui baisse le trophée et qui va pouvoir le brandir dans le ciel de Budapest. Le PSG conserve son trophée. Le PSG, après avoir écrit l'histoire, entre dans la légende du foot.
Vous avez vibré avec Jean-Louis Tour, Valentin Germain, Jérôme Rotten, évidemment, c'était sur RMC. Le PSG l'a donc fait. Cette finale, elle était à Budapest, on rappelle, donc un but partout face à Arsenal. C'est Havertz qui avait ouvert le score, Dembélé qui égalise sur pénalty. En prolongation, pas de but. Il faudra donc aller jusqu'à la séance de tir au but. Une séance de tir au but remportée par les Parisiens, 4 à 3. Le PSG est exceptionnel. Seul club français dans l'histoire à avoir gagné deux Ligues des Champions et en plus à l'avoir fait deux années de suite. Messieurs, vos émotions après cette soirée complètement folle, une finale qui n'a rien à voir avec celle évidemment de l'an passé où le PSG l'avait facilement remporté face à l'Inter 5-0. Est-ce qu'elle est plus belle celle-là?
Plus belle, non, plus belle, non.
Au niveau des émotions?
Ah oui, bah après, ça reste subjectif et relatif, en fait.
Mais je veux savoir tes émotions à toi.
Non, moi, je trouve que le football reste le football. Et le 5-0 l'année dernière, la première, là, en fait, il y a la confirmation. Et c'est toujours plus dur de confirmer. Et en plus, elle a été acquise dans la difficulté, en étant menée au score. Il a fallu aller chercher des vertus mentales pour le Paris Saint-Germain, athlétique, physique, avec des leaders qui devaient sortir prématurément, Vitinha, Kvara, Dembélé. Et moi, ça reste quand même la première. La première, c'est la première. Et puis mettre 5-0 en finale de Ligue des Champions, ça sera unique. Moi, le côté choquant, effrayant de l'an dernier restera quand même au-dessus. Mais après, profitons de ces deux monstres, hein, comme disent les jeunes.
As-tu vu déjà chez les vieux, toi?
Non, mais pourquoi les opposer? C'est deux
moments historiques.
Comme quand t'as deux enfants, quoi.
T'en aimes toujours un plus que l'autre, non?
Hein? Non, je sais pas.
Normalement, on le dit pas.
Il n'y a pas de vécu chez moi.
Tout se dit à l'after.
En tout cas, on le ressent. Mais après,
c'est en simple profession.
C'est le moment de tout nous dire.
Tout se dit à l'after foot.
Bon, Maxime, cette finale, quelles ont été tes émotions? Parce que ça a été compliqué. Le PSG a été mené. Moi, franchement, les finales qui se terminent au tir au but et quand c'est ton équipe qui gagne, moi, c'est le kiff absolu. C'est le scénario rêvé.
Là, en tout cas, où je rejoins Walid, pour moi, la première a une autre saveur. On n'oublie jamais la première, comme on le dit. Moi, j'ai pas été super emballé par ce match-là. Je vais être très honnête avec vous. J'ai trouvé que c'était plus un match plein de suspense plutôt que plein de spectacle. Alors après, en effet, ça remet pas en cause, évidemment, ce qu'est en train de faire le Paris Saint-Germain. C'est juste exceptionnel. Un back-to-back, tu l'as dit, c'est la première équipe française à le faire. C'est juste incroyable. C'est plus le parcours que j'ai envie de moi de mettre en avant. Le parcours cette année en Ligue des Champions. On y reviendra un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'en termes de scénario, quand moi je vois Arsenal marquer très vite, honnêtement, j'ai pas pris mon kiff sur ce match-là. Je vais être très honnête avec vous. Et j'ai pas envie, en effet, de casser un petit peu l'ambiance.
Mais t'es en train.
Excusez-moi, d'un point de vue footballistique. Mais c'est vrai. Voilà. Encore une fois, il faut mettre en avant, justement, cette expérience du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, le travail qu'il a fait, les joueurs qui sont rentrés, qui ont justement pris le relais des leaders qu'on attendait et qui n'ont pas forcément montré énormément de grand chose ce soir, même si évidemment ça ne remet pas en cause leur qualité. Voilà, c'est d'un tout. Moi, ce soir, je suis très, très heureux pour le Paris Saint-Germain. Je suis très heureux pour l'entraîneur Luis Enrique. Je suis très heureux en tant que Français, bien évidemment, de pouvoir avoir la chance de vivre ce genre d'expérience. Mais encore une fois, d'un point de vue contenu, excusez-moi de casser un petit peu l'ambiance, j'ai pas été vraiment emballé. Je vais être très honnête avec toi. À la fin des 90 minutes, moi, je me dis, je m'attendais à quelque chose d'autre, d'autant plus que si on est en train de comparer finalement avec la victoire de l'année dernière où c'était le football champagne, c'est 5-0 contre l'Inter de Milan. C'est vrai que là, ce soir,
mets pas en marge de tout ça. Je pense que tout le monde n'a pas vu un grand spectacle. De toute façon, on sait très bien que les finales sont à part, que souvent l'enjeu prend le pas sur le jeu. C'est ce qu'on a vu, notamment avec une équation d'Arsenal qui était pas simple à résoudre pour le Paris Saint-Germain. Mais maintenant, ça n'enlève pas en fait l'équation résolue du Paris Saint-Germain.
Si ce soir j'ai pris énormément de plaisir à regarder le Paris Saint-Germain.
Mais moi, je suis surprise quand même parce que en termes, là, on parle que d'émotion. On n'est pas en train d'analyser le match. On n'est pas en train de parler vraiment foot. Moi, je trouve que l'an dernier, ça a été tellement facile qu'en fait, tu voyais les buts qui s'enchaînaient et t'étais un peu sidéré. Et là, aujourd'hui, t'es supporter du PSG, t'es mené après 6 minutes, t'es évidemment au fond du seau, finalement tu reviens sur un pénalty, t'arrives pas à marquer le deuxième et c'est la séance de tir au but qui te délivre. Moi, je trouve qu'en tant que supporter, ce scénario-là, il est totalement fou en termes d'émotion.
Après,
c'est-à-dire
Karine,
que tu as souffert et t'as la jubilation.
C'est pour ça que je pense que la question, elle est beaucoup plus compliquée au moment de trancher que ce qui pourrait paraître, parce que c'est des émotions qui restent décuplées, c'est des émotions différentes. Attention, parce que là, j'ai l'impression que on va s'embourgeoiser quand on parle du PSG, parce que on a à l'esprit ce qui s'est passé en 2025. Mais in fine, la finale qu'on a vue là, tout à l'heure se rapproche beaucoup plus de ce qu'est une finale de Ligue des Champions, avec beaucoup de tensions. Et encore une fois, le PSG a fait back-to-back. Le PSG est la 9e équipe à réaliser cette prouesse.
Donc c'est pour ça que grosses émotions.
Bah oui, ça reste des grosses émotions. C'est décuplé parce que ça reste un doublé.
Mais de comparer. Moi, j'ai pas envie de comparer, mais s'il faut comparer, c'est juste ça. Après, bien évidemment, que ce soir, t'as une boule au ventre pendant toute la rencontre. En plus, moi, au-delà d'être sympathisant pour le Paris Saint-Germain, je suis pas le plus grand supporter du PSG, surtout avec le travail qu'on fait. Mais moi, sur la subjectivité footballiste, moi, je voulais que le Paris Saint-Germain gagne cette rencontre par rapport à la proposition d'Arsenal. Et c'est vrai que tu as t'as envie que le Paris Saint-Germain gagne. Et c'est vrai que ça a été, on va dire, beaucoup plus dur parce que l'année dernière, c'était un rêve éveillé. Rapidement, ouverture du score 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Tu te dis, mais attends, c'est pas une vraie finale, quoi. C'est hors du commun. Même si on avait écrit le scénario d'avant-match pour les Parisiens, jamais ils y auraient cru. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus terre à terre sur cette finale, hein, une finale baston, une finale tir au but, une guerre des nerfs, une guerre mentale qui a aussi son charme. Ouais. Et je pense, attention, il faudra poser la question à un vrai supporter du PSG et il te répondra.
Déjà la réponse, évidemment, quand tu gagnes un back to back en Champions League, c'est juste exceptionnel. Et encore plus avec ce scénario de tir au but, on sait que c'est toujours assez spécial. Pour revenir au scénario, moi c'est vrai que quand Arsenal marque très tôt, pour moi c'était le pire scénario pour le Paris Saint-Germain. J'ai eu très très peur pour ce Paris Saint-Germain, d'autant qu'on sait exactement quelles sont les forces d'Arsenal. la capacité à pouvoir très bien défendre. Et c'est vrai que contre un bloc bas, le Paris Saint-Germain a quand même souffert. Mais en effet, en termes d'émotion, je suis entièrement d'accord avec vous, les gars. Et toi, Karine, c'était juste incroyable d'avoir un Paris Saint-Germain qui est en mesure de pouvoir gagner deux Champions League. Mais je parle uniquement d'un point de vue footballistique. Excusez-moi, moi, à la fin des 120 minutes, bon, je me suis pas tapé la tête sur le sol, quoi. Mais encore une fois, on met ça de côté. C'est une finale. Ce qu'on retient, c'est le titre. Et bravo aux Parisiens, parce que quand on voit la manière dont ils ont évolué sur depuis les derniers 24 mois, entre guillemets, c'est juste incroyable d'avoir le Paris Saint-Germain dans cette position aujourd'hui.
Il faut en être fier. La force mentale pour aller gagner ce match-là, alors qu'il y avait tout pour être piégé par Arsenal, quoi. Tout.
Là, c'est pour ça que ça te raconte une histoire différente, parce que là, on est sur un opus, ou plutôt un Rocky 2, où tu vas affronter Ivan Drago, le monstre froid, qui est cynique et tout, qui tape tout le monde. Et toi, tu te dis au début du film, tu vas pas y arriver, et tu finis par lui mettre le KO. Donc, c'est pour ça que moi, je peux comprendre que pour un supporter, t'aies des émotions décuplées, parce que tu te dis, ah, finalement, l'antagoniste, c'est moi qui l'ai couché. Ouais, et ça, je peux le comprendre.
Ouais, parce qu'il y avait tout pour que le méchant du film gagne la rencontre, avec une première mi-temps très frustrante, où moi j'ai vu Nicolas Jauvert prendre le ballon pour gagner du temps à la 17e ou à la 18e minute, des 40 secondes pour faire une touche en s'envoyant le ballon comme dans une piscine là, quand tu joues avec tes cousins, etc.
Alors, j'ai pas la ref, là.
Et quand on s'envoie le ballon un peu comme ça dans la piscine, etc. T'avais Declan Rice qui donnait le ballon à Mosquera. Il faisait des touches en 40 secondes, en 50 secondes. Il gagnait du temps énormément en première mi-temps. Tu te dis, mais attends, mais comment ils vont faire pendant 90 minutes?
Est-ce que Arsenal n'a finalement pas marqué trop tôt?
Ah oui, mais enfin, je sais pas. Ça, c'est le fameux poncif quand tu te fais égaliser. Mais la réalité, c'est que moi, si on doit prendre l'angle d'Arsenal, moi, quand j'ai vu la finale, quand j'ai vu l'ouverture du score, je me suis dit, ouh là là, attention le PSG, parce que là, je suis en train de voir Chelsea-PSG Coupe du Monde des clubs l'année dernière. Ouais. Mais sauf que le Chelsea avait été beaucoup plus létal, beaucoup plus efficace, et ils avaient réussi à faire mal au Paris Saint-Germain en transition, en continuant de jouer au football. En tout cas, quand ils avaient le ballon, sauf qu'Arsenal a fait le contraire, c'est qu'ils ont voulu castrer le foot, ouais. Ils ont voulu castrer le match en se disant, bon, on va aller plus regarder du côté de 1-0 plutôt que le 2-0, hormis cette très belle action en fin de première mi-temps où ils ont la grosse occasion de Kaya Verts. Mais à ce moment-là, je me dis, oulala, le Paris Saint-Germain, si ils sont dans le déséquilibre, s'ils refont un peu la même finale contre Chelsea en se découvrant beaucoup trop rapidement, ils vont être en grande difficulté parce que le deuxième but sera pour moi fatal.
Ouais,
et ils ont très bien géré, en tout cas, la première mi-temps, ils sont remis un petit peu dedans sans être véritablement dangereux, en trouvant pas des Kvaratskhelia en situation de frappe, Dembélé la même chose, en étant vraiment tenu par Arsenal sur la première mi-temps. Et après, en deuxième, ils ont retrouvé un second souffle et là ils ont eu le bon momentum d'aller chercher cette égalisation et ils ont eu les occasions qu'il fallait pour aller marquer. Ils n'ont pas marqué, ils ont mieux terminé qu'Arsenal et ils ont encore une fois été très très forts dans cette séance de tir au but, comme contre Flamengo, comme contre Tottenham. Ils gagnent encore une séance de tir au but très très importante mentalement et techniquement.
Et au final, cette histoire du PSG 2025-2026, je l'aime beaucoup parce qu'elle me raconte des vertus de combat, de résilience qui sont incroyables. Au final, encore une fois, le PSG est à l'image de son entraîneur. Ils étaient donnés pour morts à 2-0 contre Tottenham. Ils ont retourné la rencontre. Contre Monaco, faut pas l'oublier, ils perdent 2-0 à Louis II. Ils retournent la rencontre. Contre l'Olympique de Marseille, trophée des champions, ils égalisent à la toute dernière seconde pour aller arracher ce trophée des champions. Contre le Bayern au Parc des Princes, ils sont menés. Ils retournent la rencontre. C'est la photographie du PSG 2025-2026. Peut-être pas aussi supérieure que l'année dernière. Mais par contre, c'est le combattant ultime. Ça veut dire quoi? Jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, les gars, on va s'accrocher. Et c'est précisément les préceptes, les valeurs qu'inculque l'entraîneur.
C'est un peu à l'image du football moderne, où est-ce que je pense que le collectif maintenant passe au-dessus des individualités. Ouais. C'est, en fait, c'est ce qui a fait défaut avec beaucoup d'équipes. Et ce Paris Saint-Germain pré-Luis Enrique, où est-ce que c'est vrai qu'on a beaucoup basé le talent, en tout cas on a mis en avant le talent et les individualités. Aujourd'hui, tu vois les équipes qui fonctionnent, le Bayern Munich de Vincent Kompany, l'Arsenal d'Arteta et bien évidemment le Luis Enrique, le PSG de Luis Enrique. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, jouer en équipe, eh ben, ça prend le dessus justement sur ces équipes qui ont tendance à tout miser sur les individualités. Alors évidemment, je contraste un petit peu mon analyse parce que le premier but parisien vient évidemment du talent entre guillemets avec ce 1-2 entre Dembélé et Vara. Mais en règle générale, ce que tu as dit, Elton, est très juste, c'est-à-dire que aujourd'hui, la manière dont le PSG s'est battu ensemble, la manière dont les remplaçants sont rentrés et se sont intégrés dans le collectif tout en étant très bons, moi j'ai envie de tirer mon chapeau à Luis Enrique parce qu'il a vraiment arrivé à créer une équipe. Et je pense que cette victoire justement, c'est la force du collectif plutôt que la force des individualités.
On va en parler de Luis Enrique. On est là jusqu'à 1h30. Un supporter parisien. On vous attend au 32-16 sur RMC. Dites-nous si vous avez ressenti plus d'émotion, si vous avez plus vibré finalement lors de cette deuxième finale remportée. On rappelle ce scénario de dingue où vous avez été mené. Averse donc a ouvert le score à la 6e. Dembélé qui a égalisé sur pénalty à la 65e. Et c'est la séance de tir au but qui a finalement été remportée par le PSG. 4 tirs au but à 3. João Neves, le milieu de terrain parisien, était au micro d'M6. On l'écoute après la victoire.
Oui, la émotion, elle est là. C'est la deuxième fois que je suis champion d'Europe et ça me fait plaisir. Pas de la victoire, c'est de jouer avec cette type de coéquipier, cette staff, cette direction. C'était la meilleure choix que j'ai fait dans ma vie et j'aime tout. Et je pense qu'on a mérité aujourd'hui. Je pense que tout PSG qui voulait jouer et je pense que c'est mérité.
C'est le PSG qui voulait jouer, parce que c'est vrai, c'est ça aussi l'histoire de cette finale et on va en parler. On s'attendait quand même à un scénario comme ça, avec un PSG qui aurait envie de jouer et une équipe d'Arsenal qui serait évidemment assise sur ses bases qui sont très bonnes. On rappelle que c'est la meilleure défense de cette Ligue des Champions.
Une équipe qui termine invaincue.
Une équipe qui termine invaincue, une équipe qui a quasiment jamais été menée, d'ailleurs aussi, on le rappelle, pendant toute cette campagne de Ligue des Champions. Mais au final, c'est pas eux qui lèvent la coupe.
Donc, pas avec le même parcours que le PSG quand même. Parce que, et puis il y a très peu de victoires. Hein, parce qu'ils n'ont pas perdu, mais il faudra regarder le nombre de victoires qu'ils ont fait.
Oui, oui. Mais il y avait la meilleure attaque de le PSG face à la meilleure défense de l'autre.
Il y a rien de surprenant quand tu connais l'arsenal d'Arteta, surtout sur les 6 derniers mois. On savait que ça allait se passer de cette manière.
Non, moi j'ai trouvé ça caricatural. Moi, je trouvais ça. Ouais, moi j'imaginais quand même un partage un peu plus équilibré, en tout cas.
C'est-à-dire dans le jeu,
Et encore plus quand tu mènes 1-0. Moi, je pensais que Arteta allait essayer de les mettre en difficulté, un peu comme ce que tu disais avec Chelsea, le Chelsea de Maresca l'année dernière, et moi j'ai trouvé que on était proche de la caricature en fait du
côté d'Arsenal.
Moi je parlais des aspects tout à l'heure, les gratter des minutes, les touches, etc. Là, c'est la négation du football. Moi j'ai revu Retafé de Bordalas sur certains aspects.
L'entraîneur préféré d'Elton.
Exactement. Et moi,
Walid comprendra.
Oui. C'est pas ce soir à 00h16, mais en tout cas moi quand t'as les solutions, en tout cas quand t'as une possibilité d'enterrer.
Est-ce que tu les as vraiment, Walid, ce soir?
De quoi?
Les solutions et les possibilités de part d'Arsenal.
Moi, je pense que tu peux mieux faire. Moi, je répète, mais cette équipe du Paris Saint-Germain, qui est monstrueuse, elle est monstrueuse dans la maturité des momentum, notamment.
Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que le plan, c'était pas de marquer très tôt et finalement essayer de garder le score?
Il a gardé le score et ne rien faire avec le ballon et refuser le ballon de cette manière.
Refuser les occasions.
Mais c'est ce qu'ils avaient fait contre le
Bayern. Non, de ce que tu dis, parce que tu oublies un élément qui est très important, c'est le rapport de force. Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'on te tape dessus. C'est Arsenal, mais le reste du temps, le rapport de force a été défini par le PSG et Arsenal n'a pas trouvé la même règle.
Arsenal n'est pas une équipe assez forte alors.
Pour moi, c'était volontaire de la part d'Arteta.
Mais pour moi, il y a des joueurs.
Tu sais pourquoi c'était volontaire? C'est exactement le même scénario contre le Bayern Munich quand Arsenal tape Munich 3 alors qu'ils étaient quasiment imbattables, rappelez-vous. Et c'était la même chose. Arteta avait décidé de laisser le ballon justement aux Munichois et derrière il les avait fait mal en contre et c'est plus ou moins ce qui s'est passé. La grosse problématique d'Arsenal ce soir, c'est que pour moi en effet ils ont marqué trop tôt, ils ont commencé à reculer trop tôt, ils ont pensé justement qu'avec leur défense de fer entre guillemets ils allaient être en mesure de pouvoir contenir les Parisiens et justement de pouvoir couper la profondeur. Et là je vous rejoins, en effet ils ont commencé à jouer entre guillemets l'anti-jeu trop tôt. Et c'est ce qui
tu joues comme ça à 10 minutes de la fin.
Bien sûr.
De la
alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, dans ce cas-là, tu te découvres, Walid, et tu te donnes la possibilité de pouvoir donner des espaces aux Parisiens, alors qu'on sait très bien que les Parisiens, ils ont frappé absolument tout le monde dès qu'ils avaient des espaces.
Excusez-moi, on parle pas de Bournemouth, on parle pas de Brighton.
On parle quand même
d'une équipe. Quand Elton, il en parle, j'ai l'impression qu'il parle du Bayern 2013.
Non,
moi, j'ai fait l'avant-match hier avec vous. Vous m'avez parlé de, ou avant-hier, vous m'avez parlé d'une équipe.
Le rapport de force entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Parce que moi, quel, c'est tout. Non, c'est moi, que Arteta craignait les individualités parisiennes.
J'ai pas de problème avec une équipe qui abandonne le ballon. Dans l'absolu, le PSG avait laissé le ballon au Bayern, au Parc des Princes. Mais la différence, la différence, c'est qu'ils ont optimisé les transitions, les contre-attaques, parce qu'ils avaient un meilleur matériel. Ce soir, les offensifs d'Arsenal passent à côté.
Mais ils passent à côté par rapport au plan de jeu. Il doit défendre plus sur Kvara que d'aller impacter le jeu.
En première période, ils ont eu les spots, mais ce qu'en fait Odegaard, ce qu'en fait Saka, ce que fait Trossard.
Mais c'est beaucoup trop loin, ils sont trop loin. Moi j'ai vu Trossard et Saka faire des courses à 40 mètres, 50 mètres de leur but pour essayer de récupérer le ballon dans les pieds de Dembélé.
Et
dans les
les pieds de Kvaratskhelia. Moi, j'ai vu Dembélé 2022, moi, quand il va faire la faute sur Di Maria de la part de Saka. Il y a un moment, le plan de jeu, il peut pas être aussi caricatural. C'est pas normal d'être. Toi, t'écartes le plan de jeu d'Arteta.
Non, moi, je l'écarte.
Donc la vérité peut-être, et peut-être dans le juste milieu.
C'est Karim qui va trancher.
Non, mais à mi-chemin. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas enfermer. Moi, je suis pas là pour déresponsabiliser les joueurs. J'ai aucun problème. C'est un tout. Moi, c'est la marque Arsenal sur le match. Et la marque Arsenal, quand je vois Chelsea, notamment ce qu'ils ont fait contre le PSG à la Coupe du Monde des clubs, j'ai vu un plan de jeu beaucoup plus agressif, mais pas forcément avec le ballon. C'est pas une équipe qui avait le ballon face au PSG sur toute la finale, mais quand ils l'ont récupéré, ça giclait en nombre, ça accompagnait en nombre. Et moi, je suis désolé, mais les grands longs ballons casse-croûte sur Havertz pour Pacho pendant 75 minutes, si c'est ça le projet de jeu d'Arteta, parce que tout le monde veut enfermer, j'écoute les émissions là, tout le monde veut enfermer Arteta en disant oui c'est ça le Arsenal. Non, moi je regarde Arsenal, il y a de l'occupation. Arsenal, il y a parfois, bien évidemment. Souvent,
tu parles en Champions League, mais ou tu parles en saison en général, dans tous parce les qu'il y a deux Arsenal. Hein.
Messieurs, on va continuer à en parler.
Je peux pas terminer ?
Non, mais on n'a plus le temps. Tu sais bien qu'il faut te payer, mon cher Walid. Ah oui. Et donc, parfois, il y a des petits encarts publicitaires. On est ensemble jusqu'à 1h30, donc on a tout le temps. On sera également avec Ismaël, supporter parisien. Et puis, vous savez quoi ? On a aussi posé la question à João Neves. Est-ce qu'il s'attendait à voir cette équipe d'Arsenal jouer de la sorte ? Et bien, vous aurez la réponse juste après une courte pause. À tout de suite sur RMC.
Pour Zélan, c'est parti pour Gabriel. Oh, c'est gagné! Ah, Paris remporte la Ligue des Champions pour la deuxième fois consécutive.
RMC, l'After Foot, spéciale finale de la Ligue des Champions.
Karim Galli. On est ensemble jusqu'à 1h30 du matin. On fête évidemment le deuxième sacre européen du PSG face à Arsenal. On est ensemble avec Walid Acherchour, avec Elton Mokolo, avec Maxime Chen. On va continuer à débriefer évidemment cette victoire. C'est très chaud là, parce qu'évidemment il y a des critiques aussi qui tombent sur la tactique et ce que nous a proposé Arteta côté Gunners. Mais attends, on va aller voir d'abord Kevin Morand, parce qu'il a envie d'aller se coucher aussi. Kevin Morand, bonsoir. Tu es envoyé spécial aux abords des Champs-Élysées. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe dans les rues de Paris ? Est-ce que la tension est retombée ? Comment se comportent les gens finalement dans les rues parisiennes ?
Ouais, bah, il y a eu des milliers de personnes, hein, 6000 selon la préfecture de police pendant le match, qui suivaient ici par diverses manières le match sur leur téléphone notamment, et puis 20 000 ensuite, toujours selon la préfecture de police, qui ont convergé sur les champs après la victoire au tir au but, peut-être un peu plus, mais depuis une grosse heure, ça s'est bien vidé parce que il y a eu de grosses charges de forces de l'ordre sur le haut des Champs-Élysées, en particulier à renfort de gaz lacrymogène, et l'essentiel des personnes se trouve maintenant au niveau du rond-point des Champs-Élysées jusqu'à la Concorde, et il y a ceux qui sont là pour faire la fête toujours avec des chants de supporters et puis des fumigènes. Et puis il y a ceux qui ont d'autres idées en tête. Il y a eu des tirs de mortiers d'artifice assez bas il y a quelques minutes. Les forces de l'ordre répondent à chaque fois pour repousser ces énergumènes qui tentent de venir au contact. Et puis il y a eu aussi une camionnette que j'ai vue qui a pris feu au niveau du rond-point des Champs-Élysées. Les pompiers sont intervenus pour éteindre les flammes. Je n'ai pas constaté d'autres dégâts et c'est tant mieux pour l'instant, majeur, notamment sur les vitrines des boutiques qui avaient été particulièrement endommagées l'année dernière. On rappelle que pour que demain la célébration sur le Champ de Mars puisse se passer dans de bonnes conditions, eh bien il faut que la nuit soit relativement calme ici à Paris pour que donc les célébrations puissent continuer demain pour ce deuxième titre du Paris Saint-Germain.
Merci beaucoup Kevin Morand, belle nuit à toi. On rappelle effectivement que demain la journée sera consacrée à ce deuxième sacre. Le programme, le Champ de Mars à partir de 14h, puis les Parisiens ont rendez-vous à l'Élysée à 18h et direction le Parc des Princes, la maison du PSG, à partir de 19h30. Bon, à mon avis, l'Élysée à 18h, le Parc des Princes à 19h30, c'est beaucoup trop optimiste. Oui. Ça va péter au niveau évidemment du timing. On vous rappelle qu'il y a minimum 250 interpellations et qu'il y a eu des affrontements multiples, malheureusement, qui entache cette soirée de fête pour les Parisiens. Walid, je te laisse finir.
Non, mais parce que moi, j'entends Elton Mokolo qui vient défendre Arteta. Moi, je suis pas là pour mettre Arteta forcément en avant. Moi, je parle au global d'Arsenal. Et moi, je suis désolé, mais Arteta, ça a quand même été un disciple de Guardiola. Moi, ce soir.
Ah, c'est le disciple de Simeone.
Mais ce soir, j'ai vu des choses à la 15e minute, à la 20e minute. Si on m'explique que c'est normal de conditionner son équipe de cette manière, alors là, je suis tout ouïe. C'est-à-dire qu'il y a un moment.
Non, mais
il y a un moment, une finale ou pas une finale ?
Tu te renies pas ?
Non, mais il y a un moment. Laissez-moi terminer quand même, si je peux terminer une minute.
Vas-y.
Non, mais on parle d'une finale Quand on a vu la finale qu'ils ont fait contre Manchester City en finale de League Cup, où ils ont totalement raté leur rendez-vous. Aujourd'hui, ils mettent un but sur un concours de circonstances, un dégagement qui vient, etc., avert, très très efficace. Comment tu n'arrives pas à matérialiser cette ouverture du score face à une équipe du PSG qui reste fébrile, qui a pris des buts contre Chelsea, qui a pris des buts contre le Bayern de Munich, qui a pris des buts contre Monaco? On va pas m'expliquer que derrière Hakimi, derrière Nuno Mendes, il y a rien à faire. Quand tu vois une attaque d'Arsenal qui n'arrive pas à avoir des solutions à deux, à trois offensives, quand tu vois que t'as eu un recrutement à 300 bâtons et que t'as ni Zubimendi qui démarre, ni Gyökeres qui démarre, ni Eze qui démarre, ni Madueke qui démarre, c'est qu'à un moment donné, il y a des choix faits par le coach, d'accord, où il y a eu des mauvais choix de recrutement, mais c'est un terrible camouflet pour Arsenal, pour le recrutement d'Arsenal, pour les joueurs et pour Arteta. Parce que ce que j'ai vu, moi, ce que j'ai vu sur le match, mais même les coachs aux étiquettes les plus sordides footballistiquement, j'ai pas vu ce match-là ce soir.
Parce que là,
et aujourd'hui, Elton, le seul camouflé, c'est de dire oui, les joueurs sont pas au niveau. Oui, les joueurs sont pas au niveau. Là. Mais il y a aussi un conditionnement. Non, moi, je suis désolé.
Non, moi, j'ai appris une phrase de Fabio Capello qui a toujours dit. Il a dit, on fait du vin en fonction de ses raisins. Et je suis désolé, je vais chez le primeur Arsenal. Il y a des raisins qui sont pas bons. Non, à un certain niveau de la compétition. Mais absolument, Walid Acharchour, il a raison. Ce soir, ce que fait Arteta, il balance un menhir dans le jardin de son directeur sportif. Ah,
donc c'est du raisin pour faire du vinaigre, mais pas des grands.
Ouais, mais voilà, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il envoie comme message à son propre directeur sportif, c'est que le recrutement que tu m'as fait pour passer un saut qualitatif en Ligue des Champions, en finale, sur le 63e match de la saison, je suis pas capable de les mettre sur une finale face au PSG, la meilleure équipe d'Europe.
Maxime, que l'équipe est en mesure.
Coupez-moi le micro de Maxime.
L'équipe est donc en mesure.
Avertz, qu'est-ce qui m'explique qu'Avertz.
Mais je suis d'accord avec toi que quand tu regardes Trossard, Avertz et même Saka, bon, Saka c'est différent, il a été blessé, mais c'est pas du tout au niveau de la ligne d'attaque du Paris Saint-Germain. Mais la réponse, vous l'avez dans les statistiques d'Arsenal. Arsenal, la grande qualité qu'ils ont, c'est leur défense. Oui. Tu gagnes 1-0 contre la meilleure équipe d'Europe, le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu dois faire? Continuer à attaquer en te prenant des ballons dans le dos. Et non, il n'est pas bête, Arteta. Il a vu ce qui s'est passé contre le Bayern Munich, entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Il savait très bien qu'il fallait limiter les espaces. Et je comprends que ça peut être frustrant pour n'importe quel fan de football, mais c'était logique qu'Arteta joue de cette manière-là.
Mais c'est pas ça le problème, limiter les espaces, très bien. Mais je te dis juste qu'à la perte, enfin à la récupération du ballon, il y a un moment, ils l'ont fait partout. Ils l'ont fait pendant 3-4 minutes.
Tu vas m'expliquer. C'est un rapport de force, évidemment.
Mais juste, expliquez-moi un truc. C'est les mêmes joueurs l'an dernier qui ont mis en grande difficulté le Paris Saint-Germain à l'aller au retour au Parc des Princes ou à l'Emirates Stadium, où le meilleur joueur qui avait été ressorti à l'aller au retour, c'était Donnarumma. C'est quoi, ces joueurs-là n'existent plus.
T'avais déjà un Merino qui était bien meilleur que ce qu'on a vu.
Martinelli était là. Bukayo Saka était là. Au milieu de terrain, c'était le même milieu de terrain.
Ah non, alors, c'est une éternité dans le football. Donc, il s'en est passé des choses.
C'est trop facile de débattre avec toi. Parce que l'année dernière, il avait les mêmes joueurs. Il avait moins de joueurs, moins de possibilités. Il avait réussi à au moins impacter. Je te dis pas de prendre le ballon au Paris Saint-Germain et de leur faire mal pendant 90 minutes. Je te dis juste avoir un temps fort pendant 15-20 minutes, impacter une finale de Ligue des Champions. Et là, tu m'expliques que maintenant, c'est plus possible.
Non, mais la différence,
messieurs,
c'est que...
est-ce qu'on peut accueillir Ismaël qui attend depuis de longues minutes, qui est supporter du PSG et qui veut évidemment partager avec nous son bonheur. Salut Ismaël.
Bonsoir Karine, bonsoir Maxime, bonsoir Elton, bonsoir Walid. Vous êtes bavards ce soir les amis, mais je comprends, c'est normal, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire.
Ismaël, oui effectivement ils sont bavards, mais on va reparler du PSG, parce que tu es supporter du PSG, parce que le PSG a gagné donc cette deuxième Ligue des Champions, le back-to-back historique. Dis-nous tout, tes émotions ce soir après cette finale qui a été beaucoup plus difficile que l'an dernier.
Émotion exceptionnelle, bien sûr, parce qu'on a souffert et surtout, je trouve que le mérite revient au football. Ce soir, c'est le football qui a gagné. J'adore Elton, j'adore Maxime, mais je vais aller dans le sens de Walid, dans le sens où, en fait, pour moi, Arsenal, en fait, Arteta, il a essayé de faire du jus de pomme avec les raisins qu'il avait.
Certes,
les
raisins. Il s'est trompé
de recette totalement sur toute la ligne. Et je suis désolé, mais quand on parle du match de Arsenal-Bayern il y a quelques mois de cela, il a affronté une équipe qui était à peu près du même style du PSG et il a su faire avec les mêmes joueurs. Donc là,
Ismaël, on va parler d'Arsenal, mais t'es supporter du PSG, j'aimerais qu'on parle avec toi aussi du PSG. Raconte-nous ta finale. Est-ce que tu t'es dit, bon, ben finalement, quand il y a ce but d'Avert et quand c'est compliqué, quand vous n'arrivez pas à marquer, parce que l'égalisation, elle n'arrive qu'en seconde période, est-ce que tu arrivais à garder confiance par rapport aux qualités du PSG ou est-ce que tu as vraiment douté?
Alors, ce qui est étonnant, c'est que j'avais moins confiance dans les qualités du PSG quand le mental du PSG quand ce mental en fait que Enrique a amené justement au Paris Saint-Germain, parce qu'en fait, la tranquillité qu'il avait, Enrique et puis les joueurs ont pris le dessus sur, je pense même le talent en fait des joueurs parisiens. Parce que le talent, il l'avait évidemment, mais on a vu que physiquement, ça a été compliqué. Je pense que c'est vraiment mentalement qu'ils ont été le chercher. Pour tout vous dire, moi le match, je l'ai regardé tout seul chez moi, parce que je regarde souvent les matchs tout seul comme ça chez moi, les matchs très importants. Et quand Havertz marque et qu'on voit la première mi-temps d'Arsenal, je pense que c'est très compliqué pour le PSG. Mais au retour des vestiaires, on voit que Paris a su être très calme. Il y a eu beaucoup moins d'excitation. Il a su calmer Hakimi et Ruiz qui étaient très énervés en première période par les pertes de balles d'Arsenal. Et donc effectivement, après derrière, on a vu que la tendance elle s'est inversée. Quand je vois les cadres sortir, donc Vitinha, Dembélé, Kvara et puis Marquinhos, je me dis que ça va être très compliqué. Et c'est là où justement je reviens sur Arsenal et Arteta qui s'est complètement trompé sur toute la ligne. Où pour moi à ce moment-là ils auraient dû attaquer, ils auraient dû justement être plus incisifs, mais ils ont voulu jouer à un jeu qu'ils ont perdu au final.
Tu vas m'expliquer Ismaël que en deuxième mi-temps quand t'as Dembélé qui sort, parce que attention après on va changer de sujet, on va partir sur le PSG parce qu'il faut quand même valoriser. Là on avait juste fait un débat sur.
Parce que
là c'est le débat chaud sur Arsenal, mais juste pour terminer, mais sur les 30 dernières minutes t'as quand même Dembélé qui est sorti, Vitinha qui est sorti,
Gvara.
80e, oui d'accord. Donc 80e. Gvara, Vitinha, Dembélé, Marquinhos qui sort. Ok. Derrière, toi, tu fais rentrer 300 bâtons avec Gyökeres, Eze, Martinelli, Zubimendi. Tu vas me dire que sur les 30 dernières minutes, c'est normal qu'une équipe qui est championne de Première Ligue, qui a quand même des certitudes, qui, moi, je répète, la caricature qu'on a vue n'est pas l'image de ce qu'on voit d'Arsenal tous les week-ends en Première Ligue, avec au moins de l'occupation, avec des coups de pied arrêtés. Tu vas me dire que sur les 30 dernières minutes, tu peux pas face à l'équipe B du PSG, face à l'équipe
B,
pendant la prolongation, on est d'accord.
Pendant les 30 dernières minutes de la prolongation, tu peux pas à un moment donné récupérer tes joueurs en disant les gars, va falloir qu'on aille la gagner cette Ligue des Champions.
Il y a un peu de fatigue, Walid. Très bien. Prolongation, c'est complètement différent parce que le plan de jeu d'Arteta aujourd'hui à la
question.
Non, mais jusqu'au penalty, on est presque d'accord. Notre auditeur nous l'a très justement dit. On est d'accord que la première mi-temps d'Arsenal, elle est presque parfaite. On est tous d'accord qu'au bout de tour de cette table,
dans le plan,
45 minutes, on se dit ça va être très très difficile.
Dans le plan, mais j'aurais aimé que sur la fin de première mi-temps, quand même, ce qu'ils ont fait sur Havertz, le petit jeu à 3, etc., que Saka soit pas sur le parking de Budapest.
Mais on est entièrement d'accord, la même chose que quand on mettait Mourinho en haut du piédestal, parce qu'avec avec son Inter Milan, il avait complètement fait déjouer le FC Barcelone.
Oui, sauf que Mourinho et Arteta n'ont rien à voir, et Arteta
c'est exactement la même chose. C'était pas du tout le football champagne qui avait triomphé, et pourtant, on se rappelle de Mourinho soulever la Ligue des Champions. Aujourd'hui, si Arteta avait gagné cette finale de Ligue des Champions avec ce match-là, avec ce scénario, qu'est-ce qu'on aurait dit ? On aurait dit c'est un génie.
Il n'y a que le résultat qui légitime ce
match. Bien sûr, mais quand tu joues de cette manière-là, il n'y a que le résultat qui te permet de valider la prestation.
Non, mais dans ton narratif, tu oublies une variable qui est très importante. Le champion d'Europe aujourd'hui, encore une fois, le PSG qui attaque beaucoup mieux la seconde période et qui marque très rapidement le but de jeu partout, ce qui change la rencontre. À partir du moment où ils ont résolu l'équation marquer un but à Arsenal, c'est un autre match qui commence. Et là, on a un PSG qui est en phase ascendante et là, Arsenal n'a plus les moyens qu'avant.
Ismaël, on revient sur le PSG, on aimerait quand même parler du PSG que d'Arsenal quand même, les gars.
Et justement, moi je pense que dans la prolongation, c'est plus Arsenal qui a perdu et même au global, je pense, et pourtant je suis en train de parler bien, je pense que c'est plus Arsenal qui a perdu ce match que Paris qui l'a gagné. Parce que comme a dit très très justement Walid, en fait en prolongation, t'as une équipe B du PSG, t'as Beraldo au milieu de terrain.
Et attends, je finis.
Et t'as Arsenal qui n'a même pas su changer son plan de jeu. Comme quoi se renier et renier ses principes.
Mais ils ont attaqué à la 118e minute. Mais c'est fou parce que Ismaël, tu vois, Elton, tu lui dis qu'il y a une équipe remaniée du PSG sur la prolongue, il va te dire non.
Mais c'est fou, mais
tu lui dis ça brûle. Il te dit non, ça brûle pas.
Le problème à toi, Walid Acharchou et à Ismaël, c'est que vous arrêtez à des noms et vous êtes en surface. Il y a aussi une dynamique, il y a une réalité de la rencontre. À savoir, la réalité, c'est un PSG qui a été globalement supérieur. Indépendamment des noms, parce que le football, parce que tu comprends pas au final le football de Luis Enrique, à savoir que l'équipe transcende les noms. Donc
pourquoi Arteta ne fait pas la même chose pour son équipe?
Il tombe sur une équipe.
Tu vas me répondre à une question.
Il tombe sur le shérif de la ville aujourd'hui du Far West.
Je sais pas, le shérif de la ville, il y a 3 jours avec Julien Laurence, quand je te disais qu'ils étaient ultra favoris le PSG, tu me disais non, attention, Arsenal c'est une très grande équipe.
Bon, on l'a vu, ça se termine au tir au but.
Mais oui, mais c'est un braquage. Sur le match, excusez-moi, le nombre d'occasions. On va les faire, les occasions du PSG.
Bien sûr,
Vitinha, Bradley Barcola, Varaski. meilleurs. Mais les gars, ils ont une occasion. Arsenal, ils ont une occasion, ils mettent un but. Derrière, ils font rien du tout.
Raya, c'est pas Gordon Bank ce soir.
Je suis désolé, il y a des énormes occasions du côté du Paris Saint-Germain.
Les énormes occasions sont dans la salle.
Mais je vais poser une question très rapide.
T'as tes questions, j'ai mes réponses.
Mais encore une fois, si tu es dans la malhonnêteté, on va passer très rapidement à autre chose. Mais on va vérifier.
J'essaie depuis tout à l'heure.
On va vérifier. D'accord. En début de saison. Ok. Équipe type PSG, équipe type Arsenal.
Oui.
D'accord. À la 120e minute, ce soir, oui. Qui se rapproche le plus de son équipe type du côté du PSG et du côté d'Arsenal?
C'est Arsenal.
Mais c'est Arsenal.
Bien sûr.
D'accord. Alors, okay. Par contre, donc on a une équipe qui termine remaniée du côté du PSG et une équipe type du côté d'Arsenal par rapport à ses recrues et ses nouvelles paires de chaussures. Oui. Et tu trouves normal que sur les 30 dernières minutes, Arsenal soit encore dans un point, dans un plan de jeu minimaliste. Et ça, on n'a pas le droit de le dire.
Il y a une chose que vous oubliez, messieurs.
Messieurs, arrêtez s'il vous plaît avec Arsenal. En fait, ça fait 20 fois que je vous dis, vous arrêtez. Parce qu'on est en train de parler du PSG là, donc ça suffit. La soirée, c'est pas spécial Arsenal quand même. Donc, juste Ismaël, supporter parisien qui est avec nous, on est en France, les gars. Hein. On n'est pas à Londres en train de faire le débrief de la défaite d'Arsenal. Ouais. Ismaël, parce que les garçons commençaient à en parler. Et c'est vrai que les changements, quand on les voit, ils peuvent faire peur. Quand il y a Beraldo qui rentre, qui après en plus va faire son tir au but, t'as stressé? Est-ce que tu t'es dit, oulala, tous les titulaires qui sortent et les seconds couteaux qui entrent, moi, ça m'angoisse? Où tu étais vraiment sûr de la force de l'équipe?
J'ai stressé quelques instants, Karine, pour tout dire, mais en réalité, j'ai été vite rassuré par justement la mentalité des remplaçants qui sont rentrés, le calme qu'ils ont eu quand ils sont rentrés, puis le calme aussi d'Enrique, le calme des remplaçants qui ont le calme des titulaires pardon qui sont sortis, qui ont eu confiance en les remplaçants. Et pour parler de Beraldo spécialement, moi c'est un joueur que je trouve vraiment assez limité, mais comme quoi le laboratoire de Luis Enrique, il fonctionne mais à merveille, et ça depuis 3 saisons, depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, ça fonctionne à merveille. La preuve, il a testé Beraldo en Ligue 1 en milieu de terrain contre Nice, il a testé contre des équipes, etc. Ça a fonctionné ce soir parce que quand il l'a fait rentrer, il a su remplacer Vitinha, surtout qu'en plus il n'y avait pas un gros pressing d'Arsenal, donc du coup ça a permis justement à ses remplaçants.
C'est surtout ça, ouais. C'est surtout ça concernant Beraldo.
Après, c'est pour ça que je vais pas revenir sur Arsenal, mais c'est eux qui ont perdu en prolongation.
Après, on a quand même sorti des Parisiens un peu plus frais physiquement. Moi, j'avais mis en avant le fait qu'Arsenal avait joué une semaine plus tard. Peut-être que ça allait les avantager, justement, de pas avoir de semaine de repos, entre guillemets. Et c'est vrai que sur les 30 dernières minutes, Walid, c'est aussi peut-être la raison pour laquelle les Parisiens ont pris le dessus sur les Gunners d'Arsenal. C'est aussi peut-être parce qu'ils étaient un peu plus frais physiquement. Et je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on est tous d'accord quand on est fan de foot qu'Arsenal aurait dû mieux faire. Après, il faut aussi mettre du crédit.
Moi, je mets un gros crédit au Paris Saint-Germain. Moi, je répète, mais ce qu'ils ont réussi à faire, parce que malgré tout ce que je viens d'énumérer sur Arsenal, mentalement, fallait résoudre cette équation-là. Et moi, je trouve qu'ils ne se sont pas jetés dans la gueule du loup sur cette première mi-temps qui paraît neutre de la part du Paris Saint-Germain, mais je suis persuadé qu'il y avait aussi une gestion du deuxième but à ne pas prendre du côté du PSG pour essayer de gérer les momentum clés. Et moi, là où je suis fasciné, subjugué par le PSG de Luis Enrique cette saison, c'est que fin de match contre Chelsea au Parc des Princes, quand il faut mettre les 4 et 5e buts pour changer la physionomie de la double confrontation, ils vont mettre le coup de collier nécessaire. Contre le Bayern Munich, la même chose, de 3-2 à 5-2, la même chose, ils vont faire l'effort nécessaire. Comment ils ont géré le début de match là-bas à l'Allianz? Je peux même revenir dans le rétroviseur sur la Coupe du Monde des clubs où à 11 contre 9, ils vont mettre le but nécessaire à la dernière seconde avec Achraf Hakimi en gérant un petit peu sur le côté là-bas, ce temps faible pour aller mettre ce deuxième but. C'est une équipe qui a un facteur temps, qui a la boussole, qui a le sablier d'un match en 90 minutes, en 120 minutes, et ils arrivent toujours à matérialiser les bons moments pour faire très très mal à leur adversaire. Et là, encore une fois, heure de jeu, qu'est-ce qui se passe? C'est Ousmane Dembélé qui va dans la zone de Kvaratskhelia, qui va essayer de combiner ce petit 1-2 qui va faire très mal à Mosquera. Comment ils ont compris que Mosquera était en difficulté fin de première mi-temps, une ou deux fois sur le côté, avec Nuno Mendes, ils ont essayé de, un petit peu comme un boxeur. Ils ont observé pendant 30-40 minutes en essayant de regarder. Attends, c'est quoi les failles d'Arsenal là? C'est où là? C'est qui titube en premier? C'est Mosquera qui titube? Et ils y ont été. En plus, avec le jaune de Mosquera sur le
très précoce,
à la 46e minute,
c'était une consigne de Luis Enrique.
Voilà, ils se sont dit on va insister là-dessus. Ouais, et ça, c'est de l'intelligence de jeu, c'est de la maturité, t'acquiers ça avec la force de la récurrence. Et c'est pour ça que je vais pas revenir sur ce qu'on avait dit sur l'avant-match. Pourquoi le PSG était favoris, c'est que ces rendez-vous-là, ils les ont vécus. Et quand je vois mon Arsenal contre City notamment sur la finale de la Ligue Cup ou encore une fois, j'ai senti que ces moments-là du côté du PSG, il y avait une expérience supplémentaire.
Ismaël, avant de te quitter, on sait que tu es supporter du PSG, donc forcément tu as vu les deux finales, celle de l'an dernier 5-0 face à l'Inter et ce soir dans la difficulté, sur laquelle tu as le plus vibré?
C'est très très compliqué à dire, mais je dirais que celle de ce soir, après c'est un petit peu à chaud, j'ai plus vibré dans le sens où les séances des tirs au but, c'est toujours quelque chose de particulier, de spécial, et quand ça se finit bien de ton côté, en général, ouais, tu la retiens un peu plus, même si le 5-0 c'était exceptionnel, mais on va dire que le 5-0, le but de Gvara, je sais plus, c'était la 70e, peut-être le but de Gvara, au 4-0, c'était déjà joué, donc en fait, on a moins vibré sur le moment T, on a plus vibré dans la longueur, et ce soir, c'était vraiment très impactant au moment que Gabriel rate son tir au but, c'est là où ça s'est vraiment décanté.
Bon, magnifique. Tu nous as dit que tu avais vécu la finale seul chez toi, parce que tu voulais être tranquille pour vivre ce grand moment. Là, tu vas faire la fête avec tes potes?
Non, demain, je vais aller au Trocadéro. J'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts. D'ailleurs, je vais passer un petit message à ce sujet-là, justement. Les gars, ne cassez pas, etc. On sait que les supporters du PSG, justement, ce ne sont pas les casseurs. Je préfère aussi le dire quand même. Il faut les dissocier, il ne faut pas les associer. Mais voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts. J'espère que les gens vont être en sécurité, ne pas foutre le bordel, excusez-moi du terme, mais voilà, sur Paris, pour qu'on puisse demain, justement, célébrer nos champions comme il se doit. Voilà,
préservez-vous, préservez les gens et faites attention sincèrement. Parce qu'il y en a beaucoup qui attendent que ça.
Ouais, et bravo pour ton message, Ismaël. Effectivement, on te souhaite une belle soirée, une douce nuit, et donc la fête pour demain. On rappelle le programme. Ça sera à vivre, évidemment, sur RMC. Journée spéciale ce dimanche, Champ de Mars à partir de 14h, puis les Parisiens, les doubles champions d'Europe ont rendez-vous à l'Élysée à 18h, ils sont donc reçus par le président de la République Emmanuel Macron, et puis direction la maison, le Parc des Princes à partir de 19h30. Dans quelques instants, on accueille Martin, supporter parisien, en ensemble jusqu'à 1h30 sur RMC, on célèbre la deuxième Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain, le back-to-back 2025-2026.
Marquinhos vient de reprendre son trophée dans les mains, il serre la Ligue des Champions, il brandit le poing et il va s'approcher tout doucement, il profite, il marche, il se met quasiment accroupi, tous les Parisiens sont en train de le célébrer, prêts à danser, Marquinhos qui baisse le trophée et qui va pouvoir le brandir dans le ciel de Budapest, le PSG conserve son trophée, le PSG après avoir écrit l'histoire entre dans la légende du foot, Marquinhos peut brandir dans le ciel de Budapest la Ligue des Champions pendant encore un an, elle est propriété exclusive du PSG.
RMC, l'After Foot, spéciale finale de la Ligue des Champions.
Karine Galli. Minuit 43, vous êtes sur RMC, on est en direct jusqu'à 1h30 du matin avec Maxime Chano, avec Elton Mokolo, avec Walid Acherchour, et on célèbre évidemment le deuxième sacre européen du PSG, une deuxième Ligue des Champions 2025-2026. C'est historique. On va écouter tout de suite un homme qui symbolise parfaitement le PSG, le club de la capitale. C'est évidemment son capitaine, Marquinhos, en zone mixte. On l'écoute.
Non, secret, ça a été de rien changer. Je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire. On savait que cette équipe d'Arsenal, c'est une équipe très forte, ils sont très costauds. Mais nous, on a été prêts pour tous les moments et toutes les circonstances de ce match. On a un entraîneur qui nous pousse d'aller vers l'avant. Depuis la première journée qu'on est rentré de vacances, il parlait de ce titre-là. Il nous a dit, gagner une, c'est déjà difficile, mais gagner deux, c'est encore plus difficile. Et si vous voulez gagner, vous devez vraiment faire plus et plus et plus, travailler encore plus et plus. Et c'est ça qu'on a fait. On a un entraîneur qui nous a montré le chemin. Et on a des joueurs qui sont encore très jeunes et peuvent encore faire des très belles choses d'ici pendant des années. Et aujourd'hui, encore une fois, on a montré notre valeur, notre mental, et on a montré la force de ce groupe.
Le capitaine brésilien qui rend hommage à son entraîneur, on rappelle, il arrive en 2013 au PSG, il a connu les années de galère, la lose, les scénarios sordides, les remontadas, il a tout connu. Et puis un beau jour, évidemment, enfin, la rédemption, la gloire. L'an dernier, il a levé la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG et cette année, il l'a levé pour la deuxième fois. Messieurs, c'est un hommage à son entraîneur. C'est vrai qu'au final, c'est Luis Enrique qui a tout changé dans l'histoire du PSG.
Ah oui, il a changé la culture, l'ADN de ce club, un club qui était plutôt moqué par rapport au fait qu'ils n'arrivaient pas justement à briser ce plafond de verre en Ligue des Champions. Et là, maintenant, ils sont au-dessus de la mêlée, ils sont au-dessus de tout le monde, ils font l'histoire, 9e équipe à faire le back-to-back. Tout ça porte la marque d'un Luis Enrique qui rejoint maintenant un entraîneur comme Pep Guardiola, Zinedine Zidane parmi les vainqueurs de 3 Ligue des Champions. Et Luis Enrique, par rapport à la conviction qu'il met, pour moi, ce qu'a fait le PSG sur cette saison 2025-2026 en termes de maturité, de résilience et de combat, eh ben c'est le portrait robot de l'entraîneur qui diffuse cette idée match après match, conférence de presse après conférence de presse, en martelant l'idée que à la fin du bal, c'est toujours le PSG qui règle la note. Et donc du côté de cette
équipe, c'est pas ça hein, l'expression.
Je l'ai remixé. non, mais justement, je l'ai remixé. C'est toujours le PSG qui règle la note. Manière de dire, c'est on va payer pour tout le monde. À savoir qu'on est la meilleure équipe. Je sais que je me suis un peu emballé, mais pour parler du PSG, non, encore une fois, ça porte la marque de Luis Enrique, qui a été un entraîneur, qui est un entraîneur fantastique, extraordinaire par rapport à cette force de conviction qu'il met. Et je suis déjà convaincu qu'ils sont déjà sur Madrid 2027, le lieu de la finale.
Il le dit d'ailleurs.
Doué, on a parlé notamment. J'aimerais qu'on reste sur Marquinhos, parce que c'est encore une fois un match très particulier pour lui. Il y a, malheureusement pour lui, ce ballon mal dégagé et il y a cette ouverture. Après, il se reprend très très mal. Est-ce que pour vous, c'est l'un des tout meilleurs ce soir?
C'est l'un des tout meilleurs. Pourquoi? Parce que notamment tactiquement, il a été visé. On a vu les longs dégagements à destination de Kaya Verte. Ça avait juste pour mission d'attaquer la zone de Marquinhos. On sait que c'est l'une des zones potentiellement les plus faibles du côté du PSG. Et au fur et à mesure, il a été grand. Il a été présent, notamment sur les duels aériens. Et ça a empêché Arsenal de mieux ressortir. Donc Arsenal... Je suis obligé de revenir là-dessus. Arsenal qui a tenté justement de ressortir par la voie aérienne, même ça, Marquinhos, il a empêché. Et globalement, sa demi-finale retour à Munich et sa finale sont d'un très 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 haut niveau.
C'est sûr qu'il
meilleur joueur ce soir.
Non, j'irai pas jusque là.
Top 3, top 5.
Top 3. En tout cas, il a su élever son niveau de jeu. C'est vrai que ça a été un peu plus compliqué cette saison. Après, crédit aussi à Luis Enrique qui l'a bien géré. Crédit aussi évidemment à Marquinhos qui connaît bien son corps et on parle d'expérience, mais c'est aussi ce qui prime.
De toute façon, il joue que les gros matchs maintenant.
Mais c'est vrai que sur ces deux, trois derniers matchs, les demi-finales et en effet sur cette finale, je l'ai trouvé très intéressant. Bon, il est fautif sur le premier but. Je sais pas si on peut appeler ça de la malchance. En tout cas, quoi qu'il en soit, il essaie de dégager le ballon derrière les contrées. T'as surtout Pacho qui ne le couvre pas. Mais je trouve qu'il a été, qu'il s'est bien rattrapé. Et je suis très, très heureux pour lui parce que tu l'as très justement dit, Karine, Marquinhos, c'était un petit peu la figure du chat noir, entre guillemets, avec tout ce qui s'était passé depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. On pensait pas qu'il serait en mesure de pouvoir élever son niveau de jeu, peut-être pour pouvoir prétendre à gagner des titres comme la Champions. Et c'est vrai que sur ces deux Champions League back to back, je pense qu'il a énormément d'importance justement dans la victoire du Paris Saint-Germain. Moi, j'ai envie de revenir en effet la manière dont aussi il met Luis Enrique en avant. Et en fait, la réalité de ce coach, c'est qu'il a enfin su créer une équipe. Et c'est ça la grande différence. Pendant longtemps, on a parlé d'individualité qui était au-dessus de l'institution. Et quand tu regardes ce Paris Saint-Germain ce soir, c'est le football collectif qui gagne. Et en plus de ça, quand tu rajoutes des individualités, c'est le Paris Saint-Germain. Et c'est juste exceptionnel pour tous les fans de foot de regarder ce genre d'équipe.
On accueille Martin, supporter du PSG, qui est avec nous ce soir pour célébrer cette deuxième Ligue des Champions. Salut Martin.
Salut Karim, salut à tous. Merci.
Martin, un peu d'entrain là-haut. Deuxième Ligue des Champions de ton histoire, tu dois être au taquet.
Non mais les gars, c'est un truc de ouf.
Quand même, ça y est, t'as retrouvé un peu de pêche.
Franchement, écoutez, ça fait plus de 30 ans que je supporte le PSG, je suis passé par toutes les galères. L'année dernière, franchement, j'ai vécu la finale, mais j'ai pas cru ce que j'étais en train de vivre. Franchement, 5-0, mais là...
Alors Martin, on t'entend très mal, je ne sais pas où tu es, mais il faudrait que tu te déplaces vers une fenêtre, parce que a priori ça capte pas très bien, on va essayer de te reprendre dans quelques instants. Walid, par rapport à Marquis, on l'a dit, d'ailleurs, est-ce qu'il va continuer aussi? On se pose la question. Hein,
attention, moi je pense que vu qu'il y a une boucle qui peut se terminer avec un tripit, je pense que tout le monde va vouloir s'accrocher à ce rêve-là de remporter 3 Ligues des Champions, même dans un rôle un peu moins majeur. Tu l'as dit, il a joué 12 matchs cette saison en Ligue 1, je pense qu'il va vouloir rester, et puis c'est le sens de l'histoire. Marquinhos, c'est quand même l'ADN de ce club. Il a tout connu, les années noires, les années fastes, et t'as besoin quand même de ce genre de relais dans ton club, même si
et puis Zabarnia n'a pas pris la suite au final.
Il y a aussi un enjeu, mais ça, on va pas en parler ce soir parce que il y aura beaucoup d'émissions sur les prochaines semaines où on pourra l'évoquer. Mais t'as Konaté qui arrive à la fin de son contrat et qui a dit qu'il le prolongerait pas avec Liverpool. En tout cas, c'est les informations.
Faut foncer dessus quand t'es Paris.
De marcher là-dessus. Donc il y aura une question là-dessus. Maintenant, moi, je pense que quoi qu'il arrive, Marquinhos doit rester dans ce club. doit transmettre son expérience et c'est vrai que il avait été en difficulté sur le match aller contre le Bayern avec Luis Diaz parce que Luis Enrique avait demandé à Hakimi de chasser beaucoup plus haut et de le laisser en un contre un, mais il s'est très bien relevé sur la demi-retour et il a fait une très très belle, très très belle finale, même si moi je veux pas dissocier Pacho aussi qui a été très bon,
bien sûr,
c'est fou parce que les deux sont sur l'histoire du premier but.
Et derrière, il se relève et il mange complètement l'arrière-garde du PSG, mange complètement les attaquants d'Arsenal. Donc ouais, bravo Marquinhos. Et il montre encore une fois que c'est une légende du Paris Saint-Germain et que c'est très très fort.
Je vais même aller plus loin parce que le football est ironique. C'est dans la période où il a été le plus contesté, on envisageait clairement une fin d'aventure pour Marquinhos, qui vit son époque la plus dorée avec ce club. Je veux dire, il y a eu des époques où il était bien meilleur entre guillemets footballistiquement, et le PSG n'allait pas loin en Ligue des Champions. Et là, c'est sur une période où là, il arrive sur la fin de sa carrière parisienne, qu'il est en train de recueillir tout ce qu'il a cherché avant, et il confirme jour après jour et Ligue des Champions après Ligue des Champions, ce qui est fou de dire ça quand on parle du PSG, après, son statut incontestable de meilleur capitaine de l'histoire du club.
Après, on l'a quand même vu sur certains matchs, et en particulier sur le match contre le Bayern Munich, quand t'as une équipe et quand Marquinhos est obligé d'aller presser haut, ça devient très très difficile pour lui, mais c'est normal.
Quand je trouve qu'il fait une meilleure épopée que l'année dernière, moi.
Mais en contre des équipes avec des attaquants qui sont rapides, ou en tout cas avec des jeux très verticaux, c'est très très difficile pour Marquinhos d'être au niveau actuellement. C'est vrai que quand le bloc est un peu plus bas, quand il a pas besoin d'aller trop chercher son attaquant ou bien de faire des appels dans son dos, ça devient relativement plus facile. Après, vous l'avez très justement dit, c'est une légende du Paris Saint-Germain, et la manière dont il arrive à lider cette équipe, c'est juste
incroyable. Encore une fois, faut pas banaliser, parce que là, avec Marquinhos, parce que le PSG enchaîne les Ligues des Champions, on est en train de voir la même récurrence que celle qu'on avait avec un Sergio Ramos qui chaque année ou presque levait des Ligues des Champions avec le Real Madrid. Et ça, c'est dingue.
De toute façon, moi, je pense que lui, comme Dembélé, comme d'autres, en fait, les mecs sont tellement passés par des traumatismes, des saisons où ça a été très très compliqué, que là, ils vont ramasser. Là, c'est Felinda tête de tigre, quoi. Il faut ramasser les pièces. Ils ont trouvé le code. Faut ramasser le maximum de pièces.
Mais Felindra, elle ramassait les pièces.
C'était elle qui
tu tournes la tête, les pièces tombées.
Et là,
la question, c'est est-ce que Luis Enrique va vouloir redébuter une saison de Champions League avec Marquinhos derrière, parce qu'on l'a vu.
Si t'as Marquinhos, Zabarni, Pacho, et si tu ramènes Konaté,
Konaté qui arrive dans cette équipe du Paris Saint-Germain, ou en tout cas un grand nom.
Moi, avec Lucien Riquet, tu m'entendras plus parler de recrutement et tout, etc. Ouais, moi, j'ai assez donné. Il m'a assez montré encore une fois son professionnalisme et sa compétence. Ils prennent pas. Moi, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils ont encore montré que même sans prépa physique, ils ont gagné la Ligue des Champions. Avec des erreurs, avec Safonov et Chevalier qui a pas pris, t'imagines.
Si tu veux, pour moi, continuer à évoluer dans cette équipe du Paris Saint-Germain, parce que si tu compares avec la saison dernière, la finale de la Ligue des Champions, finalement, c'est exactement la même équipe, à part le gardien de but. Je pense qu'il va falloir travailler, évidemment, sur Safonov, essayer de trouver un remplaçant.
Oui, mais c'est ce qu'on a dit cette année.
Voilà. Et Marquinhos. Donc, c'est pour ça que Marquinhos, en effet, super joueur, très important dans le vestiaire, très important de ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, et encore une fois, ce soir, en Ligue des Champions. J'ai pas envie de dire qu'il est en fin de cycle.
C'est ce qu'on a dit. Et les deux qui sont sur le banc cette saison, c'est les deux qui ont été achetés pour 70 millions et 55 millions d'euros.
C'est pour ça que je pense que le Paris Saint-Germain va devoir travailler justement sur ces deux.
C'est des erreurs, mais c'est aussi dû, moi je pense, au fait que il y a des statuts au Paris Saint-Germain de mecs qui sont très très durs à bouger.
Le niveau est très très haut, et surtout ça.
Je dis juste que en fait, quand t'arrives, t'es chevalier, t'as l'ombre de Donnarumma. De l'étoile que t'as gagné l'année d'avant. C'est-à-dire que les recrues qui vont arriver, les mecs, à un moment donné, ils jouent pas que contre leurs concurrents, ils jouent aussi contre l'histoire récente.
Il va falloir que ces joueurs-là,
le mec qui vient et qui passe devant Marquinhos,
on en est conscient.
À un moment donné, il va falloir pas qu'il soit fort, il va falloir qu'il soit beaucoup plus fort que ce que Marquinhos a fait.
Même chose derrière Zlatan, c'était la même chose derrière Kylian Mbappé, derrière les mecs qui arrivent, mais là il gagne la Ligue des Champions.
Là je te dis que là tu peux avoir la même, tu vois la photo de l'année dernière.
Mais j'entends, mais la Ligue des Champions, c'est la même chose que les records personnels, et enfin j'entends ce que tu veux dire, évidemment qu'il y a l'ombre des mecs qui sont passés là avant toi, mais aujourd'hui, dans le football professionnel, il y a tellement de rotations que ces joueurs-là
ils peuvent faire 6 mois même moins bons, ils ont un standard. Quand arrivent les montagnes de la Ligue des Champions, tu l'as bien vu avec Zaire Emery. Moi, j'ai vu la déclare de Luis Enrique. Elle est forte.
On va l'écouter, Luis Enrique, mais
sur Zaire Emery, qui dit que Zaire Emery a fait une superbe entrée, qu'il a fait une superbe saison, mais je l'ai mis sur le banc
parce que Fabien Ruiz, vous vous rendez compte, c'est-à-dire que Zaïre Emery qui a été énorme au poste de latéral droit et au poste de milieu de terrain, il n'a pas démarré ce soir.
C'est très dur.
C'est très dur pour lui, mais c'est aussi la réalité de ce qu'est le Paris Saint-Germain et de ce qu'a fait Fabien Ruiz et Hakimi avant que Zaïre Emery s'impose. Donc c'est pour ça que sur les recrues, moi je suis plus aussi tranché là-dessus. On va voir ce qu'ils vont faire, on va voir ce qu'ils pensent et on jugera en tant que tel. Mais cette équipe-là, elle est armée pour refaire la même saison l'an prochain. Moi, Marquinhos, je vais te dire un truc. Moi, j'étais de ceux qui disaient l'année dernière la même chose. Il faut prendre un décès. Zabarni, ça a été. Bon, il a un contrat de 5 ans, on va attendre.
Oui.
Mais ça a été décevant.
Ouais, catastrophique.
Mais Marquinhos, aujourd'hui, il a 32 ans. Ouais. Tu me dis, tu reviens dans 3-4 ans. Tu me dis, Marquinhos, il fait comme ça 2-3 ans à 25 matchs par saison entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions et qu'il a encore le brassard de capitaine, ouais. Défenseur brésilien, éthique de travail, professionnalisme, qui a l'expérience.
Et qui est en mesure de te plomber sur un match contre le Bayern Munich.
Mais tout le monde peut te plomber. Non,
Maxime, je suis pas sur le cul. Maxime, si tu laisses ton joueur te plomber, aujourd'hui on essaie de trouver une situation pour essayer d'améliorer cette équipe.
Maxime, écoute-moi, je suis pas sur le cul si tu me dis ça, parce que tu parles du plombage contre le Bayern, mais tu mets tous les défenseurs centraux actuellement face à Luis Diaz en un contre un, comme Luis Enrique a voulu jouer au Parc des Princes.
Donc, 9 Konaté,
sur 10.
Konaté, Upamecano,
ça lui arrive de faire des boulettes. Konaté,
il a été catastrophique contre le Paris Saint-Germain l'année dernière et cette saison. Et pourtant, c'est un super défenseur. Upamecano, au retour, Guevara, il lui a tout fait. Et pourtant, il a fait.
Messieurs, on a retrouvé Martin, justement.
Je dis qu'aujourd'hui, si tu veux continuer, en tout cas, à faire évoluer le Paris Saint-Germain, on sait qu'il faut faire très attention quand tu t'arrives en fin de cycle pour éviter justement
de faire réflexion. Des erreurs.
Peut-être que les deux postes ont changé,
mais c'est le gardien et Marquinhos. Mais c'est pas une véritable solution.
Messieurs, Martin est à nouveau avec nous, on espère que ça va mieux capter. Martin, supporter parisien, est-ce qu'on t'entend mieux?
Ouais, salut Karine, salut Walid, salut tout le monde, ça va?
Oui, nous très bien, donc tu es au paradis avec cette deuxième Ligue des Champions, on était en train de parler de ton capitaine. On continue avec lui, il faut qu'il soit géré comme il a été parfaitement bien géré cette saison.
Non, mais bon, bah, déjà, bon, ça fait 30 ans que je supporte le PSG, donc moi, c'est un truc de fou ce que je suis en train de vivre depuis 2 ans, là, c'est de la folie. Voilà, ça fait 15 ans que j'écoute l'after. Bon, bref, Marquinhos, c'est le capitaine absolu, en fait. Moi, ça me va de faire jouer 25 matchs par an. In fine, il va se débrouiller, il va faire le taf. Après, c'est vrai que ce soir, franchement, même, et contre le Bayern, j'étais pas ultra serein. Mais bon, c'est pas facile de le remplacer, c'est un capitaine, c'est compliqué, quoi. Donc, franchement, je suis un peu mitigé sur le cas Marquinhos. C'est un peu une légende, quoi. Franchement, c'est une légende, les gars. On peut pas dire
Il n'y a pas de doute, on est d'accord, hein.
Et donc, c'est compliqué de se dire, on va le remplacer, on va mettre quelqu'un d'autre. Enfin, franchement. Il y a qui derrière, quoi, qui on va recruter, qui on va faire.
On parlait de Konaté, parce que Konaté est un international français qui se retrouve libre. C'est quand même rare que tu aies des défenseurs centraux d'un tel niveau qui soient libres. Donc ça peut être une évidence.
Surtout qu'on veut franciser le projet aussi, il l'a toujours dit. Il est sur Marnès à Cliouche, il y a Elie Kroupi aussi. Donc il y a des talents bruts français qui peuvent être mis en avant.
Non, mais Walid, t'as dit un point qui est très important. Et pour moi, il y a une analogie à faire.
Sur Arteta, tu veux dire?
Non, sur le PSG, je précise sur le PSG, parce que au final, on peut faire une analogie avec le Real Madrid 2016, 2017, 2018. C'est au final une équipe qui a très peu bougé, et même les recrues qui venaient n'arrivaient pas justement à bouger autres qui étaient déjà présents, parce que au final, du côté du PSG, le niveau il est très très haut. Voilà. Et en fait, quand tu arrives dans une équipe, déjà le niveau il est très haut, et deux. Il joue contre l'histoire.
Oui, enfin, il y a quand même l'exemple Pacho. Il est arrivé l'an dernier. Non, on l'a vu arriver de nulle part. Il est devenu titulaire.
Oui, mais Pacho, il arrive avant
la fête.
Il participe à la fête. Bah, il s'est installé le goûter. Très vite en tant que défenseur central.
Il a ramené le goûter.
Mais ça fait pas tout. Si tu ramènes un défenseur central qui est meilleur que quelqu'un d'autre, il va jouer. Peu importe s'il a gagné la Champions ou non.
C'est pas des passes droits parce que j'ai gagné la Champions, je peux rester dans l'équipe aujourd'hui.
Avec Guardiola, tu sais, ça s'est passé de la même manière à Manchester City. Quand tu regardes l'équipe qui a gagné et l'équipe,
ils ont pas fait le back-to-back, mais ils ont gagné quand même des titres,
on est d'accord. Et Guardiola n'a pas eu peur de changer son équipe. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne vous faites pas avoir aujourd'hui par les résultats du Paris Saint-Germain qui sont juste exceptionnels. Ça va être une nouvelle compétition qui va commencer. Ça va être une nouvelle compétition qui commence l'année prochaine. Et aujourd'hui, si tu veux améliorer ton équipe, eh ben il faut regarder des postes sur lesquels ça a été un peu moins bien. Et j'ai évidemment cette fameuse rencontre contre le Bayern Munich où Marquinhos s'est fait manger. C'est tout. Non, mais... ça n'enlève rien à quel point le joueur est exceptionnel. C'est une légende du PSG. Il a été très bon ce soir. Maintenant, les gars,
Maxime, moi, je suis d'accord avec toi. Tu veux que je te dise quelque chose? Moi, je suis Luis Campos ce soir. Je me dis, mais c'est un merdier. C'est un merdier parce que si je suis dans l'immobilisme et que je touche pas à l'équipe, on peut me le reprocher en disant pourquoi t'as pas injecté du sang frais. De la même manière que si tu fais, par exemple, le move que t'as fait avec Zabarni Chevalier et que le PSG derrière est déréglé, on te dira, ouais, mais pourquoi t'as pas gardé la même ossature? C'est un merdier parce que, en fait, le PSG est tellement haut aujourd'hui que si tu modifies la moindre chose, on peut te le reprocher.
On va se projeter sur la suite, messieurs, dans quelques instants. Juste le mot de la fin avec Martin. Martin, Konaté, tu signes tout de suite?
Ouais, bonne idée, Konaté, ouais.
Bon, Martin, on te souhaite une belle nuit, parce qu'a priori, t'as bien fait la fête avec tes amis, et je crois que la nuit n'est pas encore terminée. Donc, profite et kiffe, évidemment, après ce deuxième sacre du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. Supporters parisiens, appelez-nous, faites la fête avec nous jusqu'à 1h30 du matin, on est en direct sur RMC, pour célébrer ce deuxième sacre européen. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.
Ici, c'est Paris. Paris m'a pris l'année magique. Paris m'a pris l'année magique. Paris m'a pris l'année magique.
RMC, l'After Foot, spéciale finale de la Ligue des Champions.